C'est le grand retour. 10h31, on va l'accueillir comme il se doit, l'excellent Danny Morissette.
Hey, salut Yann,
salut André. Content de t'avoir avec nous, Danny Morissette. Tu as été responsable de l'unité contre le crime organisé. Tu as aussi travaillé comme responsable des enquêtes pendant de nombreuses années au crime majeur. Tu as travaillé pour la GRC aussi, Interpol, et tu as fait quelques missions secrètes. Puis on avait un sujet hier avec Audrey concernant une jeune fille qui s'était fait hameçonner sur Internet par des individus, puis en échange de photos, ben elle recevait comme un certain bénéfice, elle recevait d'autres photos, il y avait des menaces aussi qui étaient au travers de ça, et après ça, ben c'est devenu comme des activités de sextorsion, donc la jeune fille a été très éprouvée par ça, elle a eu beaucoup de difficultés.
Grosse anxiété généralisée, par la suite, ça n'a pas été drôle, tentative de suicide, ouais. ça va loin. Là.
Elle avait la chance d'avoir un maudit bon père qui l'a encadré, lui a fait rencontrer des gens qui pouvaient aider cette jeune fille-là, puis aujourd'hui, elle semble aller mieux, mais c'est une histoire atroce, puis on en jasait ce matin avec Audrey. Ça, on a toujours cette tendance à se dire, Danny, ça peut pas m'arriver à moi, ou ça peut pas arriver à mes enfants, j'y connais mes enfants, ça leur arriveront pas, mais tous ceux à qui ça leur est arrivé auraient dit ça avant. Puis là, maintenant, c'est, voyons, pourquoi ça m'arrive à moi?
Oui.
Ça m'est arrivé, puis pourtant, on le savait. Donc, moi, je vais avoir une discussion avec mes enfants en fin de semaine concernant les réseaux sociaux. Moi, ils sont très Messenger, puis sont très Snapchat. Donc là, j'ai une application qui est très problématique. Là, j'ai Messenger Kid, qui est bien protégé quand même, et Snapchat, où il n'y a pratiquement pas de surveillance là-dessus, ce qui fait en sorte que je vais devoir jaser avec eux. Je vais lui parler du cas de cette jeune fille de 11 ans qui s'est fait arnaquer sur Internet. Et puis là, ben, toi, t'es là pour nous donner la version de la police, comment ça fonctionne. Les agents du FBI, quand ils interceptent des discussions, quand ils interceptent des dossiers, quand ils interceptent des photos, comment ils vous transmettent ces informations-là? Puis comment, de quelle façon vous traitez ça? Puis de quelle façon vous réussissez à monter des dossiers qui vont faire en sorte que ces trous de cul-là vont se ramasser en taule?
Parce que là, il faut dire qu'on parle, tu sais, de Snapchat puis des applications connues, mais toute cette idée-là part du fait qu'il y a une application qui fait son apparition de plus en plus au Québec, qui est l'application Kick, qui ressemble un peu à WhatsApp. Fait que t'as pas de numéro de téléphone, t'as pas trop d'identification, n'importe qui peut être là-dessus, c'est très, très populaire aux États-Unis. T'sais, pour vous donner une idée, là, l'an passé, c'est 128 dossiers enregistrés dans provinces reliés à des crimes à caractère sexuel sur cette application-là seulement, qui représente juste 10 % de tous les signalements que la police reçoit. Fait que c'est vraiment peu. Puis sont plusieurs prédateurs d'enfants sur ce genre d'application-là. Fait qu'effectivement, c'est les dessous un peu qu'on veut jaser avec toi ce matin, Danny. L'application Kick, c'est-tu quelque chose de vraiment nouveau ou y en a-tu d'autres au Québec sur lesquels vous retrouvez des prédateurs sexuels?
En fait, Audrey, je vais répondre à toutes vos questions. Là. On parle de sextorsion, on parle du traitement d'un dossier en provenance des États-Unis, puis finalement, on parle de l'application Kick. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce que on s'entend, la sécurité de nos enfants, je pense que c'est ce qui est le plus important. Yann, tu as des enfants?
Oui.
Audrey, peut-être qu'un jour, je suis convaincu que tu vas en avoir.
Ça va s'en venir, un matin.
Puis c'est un sujet qui touche la majorité, pour pas dire tout le monde, qui est très délicat. On s'entend, là, on parle pas de choses joyeuses aujourd'hui. Donc, parler de sextorsion pour débuter avec ça. À l'époque, quand on était jeunes, notre sextorsion à nous, c'était quelqu'un dans le parc qui venait nous offrir un bonbon. Vous vous rappelez tous de ça, puis qui nous donnait 5$ parce qu'on jouait à machine à boules, puis qu'après ça, ben finalement, tranquillement, pas vite, il essaie de nous entraîner. Aujourd'hui, tout ça, il y en a encore, mais ça s'est transposé sur Internet. Alors, la sextorsion, c'est quoi en gros? Bien, je vais le résumer en un mot, c'est du chantage. C'est du chantage, la définition, la banaliser au maximum, c'est quand que un internaute, il menace d'envoyer une photo ou une vidéo intime de l'enfant à d'autres personnes si cette personne-là refuse de lui envoyer de l'argent ou d'autres images intimes. Selon vous, j'ai fait quand même mes devoirs, en pourcentage, garçon ou fille, qui c'est qui se fait le plus sextorquer aussi?
J'ai l'impression que c'est les petits gars.
Ah ouais?
Les petits gars?
Oui.
Toi, Audrey?
Qui sont le plus victimes?
Mm-hmm.
Bien, on dirait que moi, tu saurais, je serais allée avec les petites filles.
Petites filles?
Bien, je sais pas, on dirait que c'est plus... c'est plate à dire, mais on dirait que les petites filles sont plus vulnérables à envoyer des photos par peur que quelqu'un se fasse faire mal autour d'eux autres, ou... J'y vais avec ça.
C'est bon. les petits gars.
Ah ouais?
À 90 %.
Hey boy! Donc,
énormément. Les petits gars, ça va être contre de l'argent. Puis je vais avoir des exemples concrets tantôt qui vont expliquer un peu le phénomène. Et surtout, en quoi les dénonciations, comme on parle, ont mené à des arrestations par la suite. Les petites filles, c'est 10 % seulement, mais il ne faut pas banaliser ça. C'est en échange d'images intimes, évidemment, qu'ils partagent par la suite. Et après, ils font du chantage. C'est-à-dire, écoute, tu m'as envoyé une petite photo, si jamais tu m'en envoies pas d'autres, ben écoute, c'est pas compliqué, je vais envoyer ça à tes amis, ils ont le compte Facebook, je vais envoyer ça à l'école. Puis, à ce moment-là, la victime d'intimidation à l'école, se fait juger par ses pairs. Et malheureusement, comme tu as mentionné, cette petite fille-là s'en est bien sortie dans ton exemple, mais c'est médiatisé à l'occasion, ça va aller jusqu'au suicide. On veut pas ça. Donc, moi, mon objectif premier ici, c'est de réussir à donner des conseils de prévention aux auditeurs. Leur expliquer comment faire pour sensibiliser les enfants, parce que c'est un sujet qui est quand même très délicat. C'est quoi les indicateurs, les signes qui font en sorte que cet enfant-là est approché? Il
faut que je t'avoue, Dani, que hier, quand on a eu toute cette discussion-là avec notre auditeur, avec David qui est venu partager l'histoire de sa petite fille, on a compris tout le contexte de sextorsion, mais la question qui nous est comme restée, puis qui est restée à David aussi, c'est on dirait qu'il n'y a pas de suivi. T'sais, lui a fait des démarches auprès de la police. Bon, on lui a dit qu'à un certain point, on ne pouvait plus faire grand-chose parce que l'extorqueur était dans un autre pays. Je pense que les gens ont aussi envie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec un dossier quand il se ramasse à la police? Puis j'ai le goût de te la poser, la question, comment ça fonctionne, le traitement d'une plainte?
OK. Nous, on parle vraiment de différents dossiers, mais ça peut aller jusqu'à la traite de personnes. Admettons qu'on a une plainte du FBI. Mm-hmm. Ouais, là-bas, ils ont une application, c'est un logiciel qui est ultra performant, puis même à la limite, ça fait peur. C'est un logiciel qui, en temps réel, va montrer comment de fichiers apparaissent directement dans le logiciel en temps réel. Donc, il peut en avoir, on parle des 5 chiffres. Fait que des dossiers de pornographie juvénile, c'est épouvantable. Puis malheureusement...
Donc, c'est un logiciel qui tourne au FBI et qui vérifie toute l'information qui transite par Internet.
Oui, puis okay. Je l'ai le nom du logiciel, pas par cœur, mais je l'ai, je vais vous le donner ici.
Eagle High, ça se peut-tu?
Oui, c'est en plein ça. Puis, une fois qu'admettons un logiciel pop, parce que tous les réseaux sociaux, Google, les moteurs de recherche, ont l'obligation de dénoncer tout ce qui s'appelle fichier de pornographie juvénile.
Ouais.
Donc, ça n'arrête pas, ça rentre. Puis, malheureusement, au Québec, on a une équipe qui est l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. C'est des gars, c'est mes anciens collègues. Je les salue d'ailleurs. Ils sont très, très habitués à travailler avec ce genre de dossier-là. Mais malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Il y en a 8 à Québec, 8 policiers. Puis, il y a 2 autres équipes à Boucherville. Et on s'entend, ils rentrent 3 000 dossiers criminels de pornographie juvénile de différentes catégories en un an. On s'entend, 3 000, ils n'ont pas le temps de tout enquêter ça. Donc, ça peut répondre un peu à la question de sextorsion, pourquoi c'est long. Puis c'est des dossiers de longue haleine que les patrouilleurs n'ont pas le temps de faire.
Donc, ils prennent ceux qui se font vraiment arrêter, on sait que c'est vraiment les pires dossiers que ces gars-là peuvent avoir sur leur bureau, là.
Ils travaillent... L'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, c'est les pires dossiers. On parle d'échanges, de traite de personnes. Je vous donnerai des cas concrets par la suite. Les dossiers de sextorsion, je vous dirais qu'ils se font plus enquêter par les policiers jeunesse, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, chaque école, à peu près, a un policier d'attitré.
Donc, oh, moi, je savais pas ça.
Oui, des policiers intervenants en milieu scolaire pour la SQ et des policiers jeunesse pour les autres corps de police. Donc, en plus des travailleurs sociaux, qui sont des bons outils, des bonnes références pour les jeunes qui vivent des problématiques au niveau de la sextorsion. Alors, la plainte arrive du FBI. Mettons un exemple concret. Il y a 10 000 fichiers, puis l'adresse IP
Québec.
À Québec. Tiens, bang. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont envoyer ça à Ottawa, qui ont un autre logiciel qui est Child Exploitation Tracking System, excusez-moi mon anglais, le CETS. Et puis, eux autres vont dire, « Oh, OK, là, on a un bon soit prédateur sexuel ou encore un consommateur de pornographie juvénile. » Eux, par la suite, Ottawa, vont envoyer ça au corps de police ou l'adresse IP apparaît. Donc, dans le cas de Québec, SPVQ. Qui ont une équipe, ça va être la SPVQ. Dans le cas de la SQ, ça va être le corps de police. Ça va être directement à Montréal, qui eux autres, après ça, vont leur distribuer. Tout dépendant la catégorie de pornographie juvénile ou de l'heure informatique qu'il va y avoir, parce qu'il y a trois types de catégories. Et là, je vais faire attention à mes propos. Je vais vous dire les trois catégories. La catégorie 1, ce sont des enfants qui ont été pris en photo alors qu'ils sont en bikini et ou en sous-vêtements.
Okay.
Catégorie 2, ils sont nus. Et catégorie 3, là, à ce moment-là, on parle d'organes.
D'agression.
On parle d'organes et à l'occasion d'agression. Donc, on s'entend, là?
Une gradation.
Il y a une gradation. Ouais. Et la catégorie 3, c'est juste l'exploitation sexuelle des enfants qui le font. Catégorie 1, ça peut être soit un enquêteur de poste dans une MRC quelconque, ou encore les crimes majeurs, si jamais il y a d'autres victimes d'attachées à ça. Mm-hmm. Parce que dans 90 % des cas, la personne qui dénonce, c'est pas la seule.
Êtes-vous obligé de regarder les images?
En fait, l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, c'est pour ça que je le lève mon chapeau. Oui, ils regardent. Pour les catégoriser. Puis également parce qu'il y a l'aspect qualité, donc les catégories, et l'aspect quantité. Combien de fichiers ont été téléchargés?
Ces gars-là et ces filles-là font un métier qui est hallucinant. Ils doivent avoir de l'aide pour regarder ça. À un moment donné, moi, je suis un père de famille. Là. Je suis policier. Je regarde ces images-là. J'ai besoin, sincèrement, de me confier à un psychologue. Là.
Yann, c'est une bonne question parce que moi, là, ça m'est arrivé. Ça fait 12 ans que ça existe, l'exploitation sexuelle des enfants. Avant, c'était nous autres qui les faisaient. On les regardait un par un, puis honnêtement, moi, je n'ai pas été capable.
Pour monter dossier, vous n'avez pas le choix de les regarder?
On n'a pas le choix parce qu'il faut, regarder si ça correspond à de la pornographie juvénile. C'est-tu de la production? C'est-tu des classiques de la pornographie juvénile? Exemple Blanche-Neige, je l'ai sept nains, mais version pornographie. Tu sais, ils ont le classique, eux autres aussi, là. Et ces gars-là, ils ont un moral d'acier et ils ont l'obligation de consulter deux fois par année un psychologue qui est toujours le même, Léo, et qui est expert, entre autres, en choc post-traumatique. Un policier, moi, que je connais, là, il est allé là, il était content parce que c'est une job qui est de jour, alors qu'avant ça, il était au crime majeur, puis il était réveillé le jour, soir, nuit. Il n'arrêtait pas. Il a fait un an, puis il a réalisé que ce n'était pas fait pour lui. Donc, moi, je lui lève mon chapeau, c'est mon ancienne gang. Il m'écoute d'ailleurs. Fait que Louis, Pascal, Laval, je veux pas, après ça, qui c'est qu'il y a là? En tout cas, Michael.
C'est une belle gang.
Ouais. Je vous remercie bien gros pour votre travail, les gars. Vous me manquez, puis lâchez pas. Je sais que vous n'êtes pas nombreux, puis vous n'avez pas
de
ça.
Le simple fait de détenir de la pornographie juvénile, c'est criminel. Oui. Une fois que les policiers voient qu'il y a une photo qui a été transmise, bon, est-ce qu'on essaie de retrouver la victime? Est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on sait l'âge? La victime? Est-ce qu'on se dit, ben, elle avait à peu près, on regarde les formes, ça fait bizarre à dire, mais elle avait à peu près 7, 8, 9, 10 ans?
Oui, c'est sûr qu'on va rechercher ça, de retrouver la victime, mais ça prend pas nécessairement une victime pour déposer une plainte contre ce pédophile-là, on va l'appeler de même, là. Bon, ce prédateur sexuel-là, OK? C'est drôle parce que là, tu m'amènes sur un point. Souvent, les pédophiles vont se défendre sur Internet en disant, « Ouais, mais écoute, moi, elle m'a dit qu'elle avait 18 ans. Ouais, mais écoute, moi, elle m'avait dit... je la regardais, c'est-à-dire, je regardais les photos, puis écoute, elle a les formes d'une fille de 20 ans. Elle était maquillée, si on l'entend souvent. Puis moi, il n'y avait rien qui me laissait savoir qu'elle était mineure. Belle défense, tu sais. Mais c'est pas suffisant. D'où l'importance, comme tu dis, Yann, de rencontrer la victime. Mm. Puis ça, surtout, si jamais les auditeurs... Vous pensez que votre enfant est victime de sextorsion ou se fait approcher par un prédateur sexuel, gardez tous les documents avec vous, tous les échanges d'informations, ça va nous les prendre. Parce que nous autres, il faut démontrer cet aspect-là, entre autres, au niveau du droit.
Allez-vous à la rencontre de... Tu sais, des fois, on voit ça dans les émissions. Je ne sais pas si tu as vu ça, Yann, dans les émissions américaines, là, un peu comme le catfish. Là, est-ce que ça fait partie des genres de missions, je vais appeler ça mission secrète, là, mais de vous faire passer, par exemple, pour une jeune fille ou un jeune homme mineur, puis d'essayer d'attraper des pédophiles de cette façon-là? C'est-tu juste dans les films?
Non, c'est pas juste dans les films. C'est vrai. Là, on rentre dans une technique d'enquête. Mais je peux en parler. j'ai oublié de mentionner, dans l'équipe d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, le SEI, je vais l'appeler de même, c'est le terme qu'ils utilisent, ils ont deux personnes qui sont formées en infiltration virtuelle. C'est deux gens experts en cybercriminalité. Et eux, leur tâche, entre autres, puis c'est très, très balisé. T'sais, moi, je ne pourrais pas le faire, même si je suis un ancien policier. Puis si j'étais actif, je ne pourrais pas le faire non plus. C'est seulement certaines personnes. Eux, ce qu'ils vont faire, effectivement, on va donner un exemple, le Grand Prix de Montréal. Grand Prix de Montréal, tout le monde le sait, mais regarde, il y a beaucoup de pornographie juvénile, il y a beaucoup de pédophiles qui vont là assouvir leurs besoins. Et puis, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font un faux profil. Évidemment, ils ne vont pas prendre une photo sur une photo d'un ami, une petite fille, tout ça. Ils vont faire une photo, des fois même avec l'intelligence artificielle.
Ça doit être plus facile aujourd'hui.
Oui. Et après ça, ils vont aller sur des sites reconnus de pornographie juvénile. Et avec ils vont faire un portfolio, qu'on appelle. Et avec ça, ils vont se faire approcher par, des fois, des pédophiles. Et une des choses qui est super importante au niveau du droit, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'on appelle l'entrapment. C'est qu'ils n'ont pas le droit, je vois en français, c'est de forcer quelqu'un à commettre le crime. Il faut que ce soit les prédateurs qui viennent vers eux et non l'inverse. Ça serait trop facile, mettons, de dire...
Il faut que ce soit le prédateur, par exemple, qui dit « J'aimerais ça qu'on se rencontre au parc à telle heure. »
Voilà, voilà. Ça peut pas être le policier en infiltration virtuelle qui dit « Hey, écoute, je serais intéressé à te voir. » Puis tranquillement, pas vite, qu'il l'amène à commettre une infraction criminelle.
Puis pouvez-vous arrêter sur le moment?
Absolument.
Oui? Fait que si vous allez à la rencontre d'eux, puis on se rend compte que c'est un homme dans la soixantaine qui voulait voir une petite fille de 16 ans... On est capable de l'arrêter
absolument,
sur le fait.
Absolument. On n'attendra pas que le crime soit commis.
Tu vois, Danny, c'est intéressant. J'écoutais un documentaire. En fait, je ne sais pas si ça provenait de la ville de Québec, mais les policiers, ce qu'ils mentionnaient, c'est quand il y avait des opérations policières pour la prostitution juvénile, ben les individus pouvaient appeler, demander une prostituée très jeune. Et là, ben, les policiers organisaient une rencontre, puis la dame qui était à l'accueil arrivait à la porte avec l'individu qui voulait avoir une relation sexuelle, puis la policière disait, étant civil, elle disait, est-ce que vous savez que la personne a 17 ans? Et là, le gars disait, oui, c'est correct. Vous êtes sûr? Oui, c'est beau. On ouvrait la porte, puis là, on procédait à l'arrestation de l'individu.
C'est fou, hein?
C'est bon que tu saches ça. C'est le projet Chaîne. Il a peut-être changé de nom récemment. Mais oui, on fait souvent des opérations avec l'équipe d'exploitation et tout. Et ça se passe régulièrement dans des hôtels. Et exactement, le jeu, là, est vraiment au niveau de l'âge et du consentement. T'sais.
Ces gars-là vous disent quoi? Ils ont-tu des... Quand ils se font prendre, ils ont-tu de véritables remords ou bien ils font... C'est des larmes de crocodile?
C'est du cas par cas.
Ouais.
Mais pour n'en avoir interrogé, ils vont bien gros jouer avec des larmes de crocodile. Mais
on va les détruire ma carrière.
Ou ouais. Ou
ma femme, elle va me quitter.
Oh, et ça, on les entend régulièrement. Ou y a-tu moyen de m'en sortir? J'ai de l'information à vous transmettre.
Oh mon doux Seigneur.
Ouais, un loup qui est pris dans un piège, à un moment donné, va tout faire pour s'arracher à la patte pour s'en sortir, hein, mais c'est la même chose. Une fois qu'ils savent qu'ils sont canés, là, sont prêts à vendre leur mère pour s'en sortir.
Gang de crottés, avez-vous un je m'excuse, c'est mon avis personnel. Avez-vous un... tu sais, là, des fois, on parle de deuxième chance, hein, pour les pédophiles. T'sais, est-ce qu'ils méritent une deuxième chance? Est-ce que la réinsertion sociale est méritée? Si ça, est-ce que vous y croyez comme policier? Parce que, tu sais, vous faites tellement face à ces images-là, vous en voyez tellement, ça vient pas un moment donné altérer un peu le principe de pardon?
Moi, personnellement, puis là, c'est Danny qui parle, mais je pourrais quasiment parler pour la majorité des policiers, il n'y en a pas de pardon dans ces cas-là. S'il y a bien un crime qui est crapuleux, qui est pas sympathique, c'est bien de la pédophilie. Donc, j'en ai pas de deuxième chance pour eux autres. Ils ont tellement d'outils, ils ont tellement de façons de s'en sortir. Ils le savent qu'ils ont ce problème-là, bien qu'ils aillent consulter. Qu'ils aillent vers les ressources qu'on leur donne, que le gouvernement leur donne, avant de briser la vie d'un enfant. Parce que moi, à toutes les fois que j'interrogeais des pédophiles, faut pas oublier une chose. Oui, lui, de l'accuser... d'y faire admettre son crime, d'avoir des aveux, de l'amener devant le tribunal, de le faire sentencer, c'est tel quel. Mais moi, je travaille pour quelqu'un, puis c'est la victime. Mmh. Avant, je l'ai rencontré, la victime, puis j'ai passé du temps avec. Fait que lui, après ça, qu'il se mette à me pleurer dans la face...
Il y a un auditeur qui nous écrit, puis je suis tellement en accord avec son affirmation. Ces gens-là regrettent de s'être fait pogner. Ils ne se regrettent pas de ce qu'ils ont commis.
C'est vrai.
C'est très bien dit.
C'est très bien dit, effectivement.
Des dossiers de Warcraft, tu sais, les jeux qui sont hyper populaires, World of Warcraft, Fortnite, Roblox, t'en as-tu déjà eu?
Écoute, c'est un de mes deux exemples.
Bon, profitez-en pour nous stresser.
Ouais, je vous compte une petite anecdote version rapide. Début des années 2010-2011, j'étais au crime majeur et puis il y a une personne, puis je la remercie encore aujourd'hui, qui vient nous voir au poste de police. Et pour ceux qui connaissent World of Warcraft, c'est un jeu de rôle où c'est que tu crées un personnage, un avatar, puis tu commences, t'es pas fort, puis à la fin, tu deviens très, très fort. Et pour les auditeurs, aujourd'hui, c'est plus vrai. Ben, il y en a encore sur World of Warcraft, mais ça s'est transposé tranquillement sur Fortnite puis Roblox. Vos jeunes, ils connaissent ça, ces jeux-là. Donc, le jeune en question, lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il est allé... Il a rencontré quelqu'un. Je me rappelle le nom de l'avatar. On en parlera après aussi. C'est Pedo Bear. Et...
Pedo Bear.
Pedo Bear, l'ours. Excusez mon anglais. Là.
L'ours pédophile.
L'ours pédophile. Mais lui, il a 10 ans, le jeune.
C'est un
flatteur. Ouais. À 10 ans, lui, il fait pas de lien, là. Et puis... Tu peux payer pour avoir des objets là-dedans. Je ne suis pas très familier avec ça. Mais il s'est ramassé avec un bonhomme très, très puissant. Et puis, à un moment donné, il s'est mis à parler avec ses parents. Puis là, il s'est mis à utiliser des termes, des mots qu'un enfant de 10 ans n'utilise pas. Genre « dick pic ». Ça vous donne une idée, là. Et je passe les autres mots, évidemment. Les parents, ils ont allumé tout de suite. Ils ont dit « Oh, attends un peu, montre-moi ça ». Et ce qu'ils ont réalisé... C'est que, semblerait-il que dans ces jeux vidéo-là, tu peux avoir une guilde, genre de groupe de personnes. Puis, il était au-dessus de 150. C'est un groupe de pédophiles. Je sais que ce n'est pas sympathique pour les auditeurs, je m'en excuse, mais c'est des faits. Qui s'étaient regroupés ensemble et que eux, leur rôle, c'est drôle parce que leur avatar, c'était tous des chasseurs. Là. Tu peux être un guerrier, chasseur magicien, les hunters. Fait que leur rôle, c'était tranquillement apporter les jeunes pour réussir à avoir des photos, des vidéos. Et malheureusement, ça fonctionnait. Donc, on parlait tantôt de FBI, de l'application Kik, on va y revenir aussi rapidement. Ce jeune-là, finalement, après enquête, on a réalisé que ce groupe-là provenait des États-Unis, avec l'adresse IP, avec les fameux logiciels que je vous ai mentionnés antérieurement. Et on a évidemment transféré via Child Exploitation à Ottawa, ce dossier-là, qui lui l'a retransféré, je pense que c'était dans l'État du Maine, si je me souviens bien. Et finalement, sur les 150 personnes, il y en a au-dessus de 100 qui ont été arrêtés.
Fait que vous pouvez faire ça, parce que c'est un peu ce dont on jasait hier aussi. Pourquoi on ne retrouve pas les malfaitants, d'ailleurs, sur Internet, avec les VPN puis tout, là. Mais vous pouvez transférer des dossiers ailleurs dans le monde, si jamais, par exemple, le pédophile n'est pas d'ici, là.
Absolument. Dans certains crimes. Et ça dépend aussi de l'entente de réciprocité qu'on a avec le pays. T'sais, mettons, Cuba, ça risque d'être plus difficile que la France, par exemple. Mais on parle de VPN, les gens, puis là, je m'adresse aux pédophiles, les gens qui s'imaginent que c'est impossible de retracer une adresse IP avec le VPN, là, ben oui, il avait raison, il y a 10-15 ans, là. Mais nous autres, on a le soutien technologique à la Sûreté du Québec, puis le SM aussi, ils ont le service. Ben maintenant, là, on va oublier ça, le NordVPN, là, on est capable de les retrouver. Puis on a d'excellents contacts dans ces services de fournisseurs-là qui sont en mesure de nous retracer ça aussi.
Ce qui est une très bonne nouvelle.
Ce qui est une excellente nouvelle. Fait que, regarde, si ça peut faire peur à des pédophiles, s'ils m'entendent, là, mais regarde.
Y a-tu moyen d'identifier visuellement ces individus-là sur les réseaux sociaux? Y ont-tu des signes distinctifs? Y utilises-tu des émoticônes? Y ont-tu un genre de regroupement? Genre, on se met des T-shirts, puis on est comme l'association des pédos mondiale?
Malheureusement, oui. Il y a des indicateurs, il y a des signaux.
Ils sont nommés cocons.
Ouais, puis les preuves à l'appui.
Ils sont fiers.
Ils sont fiers. Puis, tu sais, c'est pas des signaux qui sont facilement identifiables pour le commun des mortels. Mais je vais vous en donner deux. Mais encore là, je suis très prudent. Je veux pas faire peur aux auditeurs. C'est vraiment des cas d'exception, OK? Mais vous irez voir sur Google. On parlait tantôt de Pedo Bear. À l'époque, avant qu'Internet existe, mais encore aujourd'hui, ça existe encore, là, on voyait à l'occasion, puis moi, j'étais très allumé là-dessus, des stickers sur des véhicules de Pedo Bear. Pedo Bear, là, c'est un petit ourson qui est super gentil, qui a de l'air très, très amical. Mais allez voir sur Internet, il se vend des chandails, il se vend toutes sortes d'items sur Pedo Bear. Puis il y a des messages décrits genre « Arrête de grandir, s'il vous plaît ». Puis là, je suis très conservateur, là, il y en a des plus dégueulasses que ça. Donc, encore aujourd'hui, ça existe. Et là, ce qu'on voit, et ça, c'est mes collègues qui m'ont informé de ça, j'étais pas au courant, c'est que, puis là, faut pas partir en peur non plus, là, il y a un émoticône qui est de plus en plus fréquent sur les réseaux sociaux, surtout sur les sites de Messenger comme Kick. C'est la petite pointe de pizza, le cheese pepperoni.
Oh, ouais.
Ben, ils vont l'utiliser souvent à la fin d'une phrase pour s'identifier entre eux autres. Et puis, pourquoi ils vont utiliser cette pointe de pizza-là? Puis, ne partez pas en peur, les auditeurs, si jamais vous voyez ça, faites pas le lien tout de suite, mais au moins, vous allez avoir un indicateur. Cheese pepperoni, c'est les mêmes initiales que child pornography.
Tabarnouche, c'est poussé,
ou
ce livre.
Ou child pedophilie.
Oh,
un peu comme les motards, mettons, les Hells Angels vont utiliser 81, le 8 pour le H et le 1 pour le A. Même affaire.
Quand je serai président de ma dictature, là, un jour je serai président d'un pays et j'ouvrirai une dictature, c'est ce que je vais faire.
Non.
Je vais demander à mon service de police de partir une association de pédophiles. Je vais vendre des t-shirts et tout ça. Puis tous ceux qui vont acheter des t-shirts par Internet vont devoir me donner l'adresse. On va être capable d'époigner de cette façon-là. Les gros épais vont acheter des t-shirts pédobeer puis on va être capable de les prendre très rapidement.
Ah, hier, là, j'étais dans tous mes états parce que je suis allé voir pour le fun si ça existait encore.
Ça existe encore.
Ben non seulement ça existe encore, mais tu sais, sur Etsy, sur eBay, en vendre.
Est-ce que Google vous aide? Est-ce que Microsoft vous aide? T'sais, juste les recherches. Là. Je sais pas, moi, un homme qui ne connaît pas bien Internet dit « jeune enfant de 4 ans nu ». Mais il me semble que moi, si j'étais le propriétaire de Google, je flaguerais assez rapidement cet individu-là et j'enverrais ça au FBI.
C'est bien que tu en parles parce que ça fait partie de l'historique, un peu, de la pornographie juvénile, de comment que les policiers se sont amenés à faire des dossiers de pornographie juvénile. Je vous explique, en 2005, ça faisait déjà quelques années qu'Internet existait, il y a des policiers de Toronto qui se sont dit « Hey, on n'arrête pas d'avoir des drôles de dossiers, tu sais, de sextorsion qu'on n'appelait pas de même, on a du leur informatique, de traite de personnes et tout. » Puis nous autres, ben, les vieilles polices, ça nous prenait une scène de crime, des témoins, une victime, un suspect, pour travailler comme du monde. À Internet, on connaissait pas ça, là. Puis pas plus que les autres. Mais les policiers, ils se sont dit, garde, faudrait peut-être faire de quoi là-dedans. C'est un phénomène qui est émergent. Ils ont punché directement à Microsoft. Et c'est Bill Gates en personne qui leur a répondu, oui, effectivement, on a un grave problème là-dedans. D'où l'obligation maintenant pour les moteurs de recherche, entre autres, de dénoncer ce genre de crime-là. Fait que Bill Gates, c'est lui qui a parti le fameux logiciel en question, qui s'est développé par la suite et qui a donné les outils nécessaires aux policiers pour permettre d'attraper ce genre de suspect-là.
Hey, c'est complètement capoté. En passant, on parle avec Danny Morissette. Il y a des gens qui nous demandent, Danny Morissette, qui est ancien policier à la SQ, qui a travaillé partout, là, qui a tout fait dans son domaine. Là, mettons que je vous résume ça. Est-ce qu'un pédophile ou futur pédophile, peu importe, là, qui consulte, peut être arrêté? Tantôt, ça a piqué ma curiosité quand tu disais qu'il y a des gens qui peuvent peut-être consulter avant de faire une erreur, mais ces gens-là qui se confient, mettons, est-ce que le psychologue a le devoir de vous en informer? T'sais? Parce que j'imagine que ça peut peut-être freiner des gens qui ont des problèmes assez.
Le psychologue ou le psychiatre, il y a des normes, lui.
Oui, quand il y a un crime qui est commis. Là.
La vie de quelqu'un peut être en danger, il se doit de sortir de son serment de confidentialité. Mais si la vie de personne est en danger, il garde ça pour lui. Mais c'est écrit, c'est toujours écrit là, à ce qu'on sait.
C'est en plein ça. J'aurais aimé dire que oui, mais en 27 ans de carrière, puis en parlant avec les autres policiers, j'ai jamais un psychologue ou un docteur ou un infirmier qui est venu nous voir pour déposer une plainte concernant un pédophile qui l'a consulté. C'est seulement dans le cas où que la vie d'une personne est en danger ou ce que là, c'est une question humanitaire, ils ont l'obligation
de lever un flag.
De lever un flag.
Fait que les futurs pédophiles sont en sécurité s'ils vont consulter.
Il y en a plein de pédophiles qui consultent, mais on le saura jamais.
Danny, Morissette, on va changer de sujet à Québec. On connaît une guerre des stupéfiants actuellement. On a deux groupes criminalisés qui semblent se faire la guerre. Il y en a un qui semble être extrêmement cruel ces temps-ci, le fameux BMF.
Ou BFM.
BFM, voilà. Encore en bas, il y a de ça quelques jours, on a brûlé un véhicule. Et à côté de ce véhicule-là, un petit peu plus loin, on a découvert qu'il y avait un corps qui avait été... mutilé, décapité et brûlé, quand même assez particulier, tellement que les policiers sur place, mes contacts du moins, me disent, tu sais, Yann, cette personne-là, on ne peut pas l'identifier, là, de la façon dont elle a été traitée, on ne peut pas l'identifier. J'ai d'autres informations, mais je ne la donnerai pas en ondes concernant cet individu-là qui était qui a été retrouvé. Mais est-ce qu'on craint le pire? Est-ce que chez les services de police, on a-tu l'impression qu'il va y avoir encore une escalade où on a comme atteint le sommet? Parce que là, j'ai l'impression qu'on vit les mêmes affaires que dans les histoires de cartels en Amérique du Sud, où les gens étaient retrouvés dans des valises. Là.
Écoute, depuis la guerre des motards, 1994-2002, on n'a jamais vu ça. C'est comme la plus grosse crise de guerre de stupéfiants, de guerre de territoire, de taxage. Que la police, que la population en général a vécu. On a rencontré au tout début, il y a 3 ans, les motards, puis on leur a demandé de slacker un peu. Eux autres, ils nous disaient que c'était pas eux autres. Puis ils nous disaient de faire notre travail. Donc, c'est correct. Mais on les a rencontrés encore récemment avec l'escalade. Puis encore, je pense que c'est hier qu'il y a eu un incendie criminel à Lévis qui semble fortement... relié encore à cette guerre-là.
Val-Bélève, là, 2 semaines, un individu qui s'est fait tirer à 10h30.
Lorando, qu'on connaît bien, oui.
Patrick Lorando, 10h30 le matin, il était avec sa conjointe dans le véhicule. Il était dans sa rue, en fait, puis il s'est fait tirer par des gens. Tu sais, moi, Danny, je vais être très honnête avec toi, que ces gens-là se tirent entre eux, là. Je me dis, ils se font le ménage eux-mêmes, puis c'est leurs affaires. Mais en plein jour, à 10h30 le matin, dans des quartiers résidentiels, ça, là, à un moment donné, il faut que les policiers, il faut que le gouvernement se fasse quelque chose.
On ne voudra pas revivre Daniel Desrochers, le jeune de 11 ans, là, je pense, là, à Hochelaga-Maisonneuve, en 1995. Il y avait une bombe en dessous d'un Jeep, et puis il avait reçu un éclat. Et puis, il est décédé.
Puis ça, Danny, là, les services de police, à l'époque, demandaient au gouvernement des montants supplémentaires pour lutter contre le crime organisé. Le gouvernement disait « on n'a pas d'argent ». Mais à partir du moment où il y a un jeune de 16 ans qui a été tué, et là, tout d'un coup, les policiers, ça justifiait le fait de faire une conférence de presse puis dire qu'on va donner beaucoup d'argent aux services de police pour essayer de régler la guerre des motards à l'époque. Je te donne une hypothèse comme ça. Là. Dans le cas où qu'on a présentement, là, la guerre des motards, si jamais il y a un jeune de 14 ans qui est impliqué, est-ce qu'on pourrait revivre la même histoire qu'on a vécue il y a de ça des décennies et des décennies? Mais écoute, le gouvernement va dire on va écouter nos policiers puis on va mettre plus d'argent pour les escouades?
On ne voudrait pas se rendre là. Ça, c'était un événement. Mais rappelez-vous, à l'époque, il y avait un bunker à Saint-Nicolas où c'est que la population s'était levée debout et avait fait un cercle autour du bunker alors que les motards étaient sur le toit avec des jumelles, puis on va dire des armes à feu. Ça avait aidé énormément. On ne veut pas se rendre là. Mais ça me fait penser, la Ville de Québec, le SPVQ, ça fait combien de temps que le directeur demande au gouvernement un budget spécial? Plus de membres spécialisés en crime organisé et qui se fait référer à la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, au mois de mars, là, pour leur régler le problème, du jour au lendemain, on a décidé d'amener de Montréal, sans enquêteurs, faire le projet scandaleux.
Oui. Puis il était assez visible, là. On a vu débarquer à Québec, là. Il y avait des gens là-dedans qui avaient de l'air pas trop sympathiques auprès des motards.
Non. On était en mission. On en a arrêté, je pense, c'est 32. On a fait au-dessus de 40 perquisitions.
Les chemises antibales dans le restaurant. Salut, comment ça va?
Un gros show.
Oui.
Gros show, mais ça a eu l'effet escompté. Ça l'a arrêté, ou à tout le moins, ça a diminué énormément. Mais c'est ça le problème qu'on a. Je ne parle pas contre mon service de police ou contre le gouvernement ou contre qui que ce soit. Ce n'est que mon opinion personnelle. C'est qu'une fois que c'est terminé, on revient à nos habitudes. Donc, l'ENARCO, qui est l'escouade nationale de répression du crime organisé à la SQ, malsain à la SM Québec, eux autres vont retravailler avec les mêmes effectifs réduits. Donc, paf, on a 100 enquêteurs du jour au lendemain. On fait une semaine, on fait un beau show, plein d'arrestations, ça calme le jeu un peu. Mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné quand on arrête? La moisissure repogne dans le,
ben c'est
dans
ça,
le plancher et elle recommence.
Là, ils le savent aussi. Là.
Mais là, donc là, on serait dû pour un projet scandaleux
de deux. Le chef de tout ça, il est outre-mer. Il a fait comment pour se ramasser autant d'argent pour faire ce nombre de crimes-là? Puis ce qu'on voit, c'est que les contrats seraient confiés à Montréal. Les gens de Montréal descendent à Québec, commettent des gestes absolument horribles, puis retournent à Montréal, puis on semble avoir de la difficulté à les retrouver. Il se finance comment, lui, à l'autre bout?
Je vais te l'imager, ça va être très simple. Pic Turmel travaillait pour Matt Pelletier, qui est un full patch à chat, qui est le fils à un autre full patch.
Ouais.
Bon. Matt Pelletier, à un moment donné, c'était lui qui donnait la drogue au Pic Turmel. Puis le Pic Turmel, il a fait de quoi que moi, personnellement, j'ai jamais vu. Il a volé une quantité de cocaïne très, très élevée à un full patch DHA. À ce moment-là, il a su que sa vie est en jeu et il s'est poussé, on va dire, en Europe, quelque part. Et ainsi que ton ami Al Boivin, avec qui tu es allé à l'école.
Oui.
Des drôles de connaissances.
Oui, je suis pas allé à l'école avec, mais j'avais peur de lui quand j'étais à l'école parce qu'il se promenait au Saguenay.
Ouais. Donc, avec cette drogue-là, parce que lui, ce qu'il faisait, le Pic Turmel, c'est qu'il revendait la drogue moins chère, tu sais. Puis il était bien relié avec les gangs de rue, les Profits Boys de Montréal, entre autres. Donc, il est parti outre-mer et quand même brillant, bon bandit. Lui, il s'est mis à se dire, ben, tant qu'à mourir, parce que quand, pour revenir sur nos rencontres de motards, aujourd'hui, quand on les rencontre, là, ce qu'ils nous disent, ils nous disent plus la même affaire qu'avant, c'est faites votre job. Là. Non, ils nous disent, regarde, pognez-les de Turmel, parce que si c'est nous autres qui le pognent, vous ne le pognerez plus jamais. Vous ne le verrez plus. Ils ont changé de discours. D'où, puis là, je vais refermer la parenthèse, d'où la raison que peut-être que ce qu'on voit actuellement, c'est pas nécessairement le BFM, c'est peut-être la riposte des Hells. Je vous lance ça. Parce que les Hells, comme une organisation internationale, ils ne peuvent pas toujours se laisser faire. Puis à un moment donné, ils ont des comptes à rendre à Oakland, au chapitre mère et tout. Fait que, ferme la parenthèse. Donc, pour revenir au Pic Turmel, qui a volé Matt Pelletier, s'en va avec son argent, avec sa drogue, vend sa drogue, tout ça. Il y a de l'argent à ne plus finir. Il sait qu'il va mourir de toute façon. Puis lui, il dit ouvertement, tu gardes le dessus. Tant qu'à mourir, je vais me venger, je vais m'amuser. Donc, il s'est mis, via des applications, à donner des contrats à des gangs de rue. Et les contrats, je vous le dis, là, la vie d'une personne, ça vaut 1000 piastres aujourd'hui à peu près.
Hein?
On a vu ça.
C'est pas beaucoup?
Non. Puis ils donnent ça aux gangs de rue. Mais on s'entend, gangs de rue, souvent, c'est des jeunes âgés entre 18 et 25 ans. Après 25 ans, ils passent à d'autres choses. Donc, eux autres, c'est de l'argent vite fait, facilement fait. Et la majorité des gangs de rue sont où? Sont à Montréal. Donc, c'est pas pour rien qu'on voit des vols de véhicules, puis les gens qui sont arrêtés proviennent de Montréal, de Laval, de Longueuil, mais surtout dans ces environs-là, et viennent faire des crimes, des meurtres, des tentatives de meurtre, des incendies criminels, des véhicules incendiés à Québec. Pic Turmel, lui, il paye demain. C'est comme ça que ça se passe.
1000 piastres pour tuer quelqu'un.
1000 piastres pour tuer quelqu'un.
Mais je
t'as encore 25 ans de prison de mémoire?
C'est 25 ans, oui.
Ça me vaut pas la peine. Tout le monde calcule comme... Je suis pas bonne en maths, là, mais...
je sais pas. On dirait que ces jeunes-là sont désensibilisés par la valeur d'une vie.
Complètement.
Tu sais, que ce soit la valeur d'une autre personne ou la valeur de sa propre vie. Je veux dire, tu gâches ta vie pour 1000$, tu sais, ça a pas de bon sens, mais imagine-toi, tu tues quelqu'un pour 1000$. T'enlèves la vie de quelqu'un d'autre pour 1000$. Puis là, moi, c'est ça là en plein
j'anime
jour.
J'anime un party de Noël pour 1000$. Il me semble que c'est plus simple. Non, mais je sais pas.
Hey, ça a été un plaisir de discuter avec toi, Danny Morissette. Tu nous donnes énormément d'informations. Puis ça, on peut en revenir au premier sujet. Puis pourquoi on parlait de ce premier sujet-là? C'est l'histoire des pédos là, qui approchent nos enfants sur les diverses applications. On parlait de l'application Kick, Snapchat, Messenger et tout ça. Avoir une petite discussion avec nos enfants, là, ça ferait pas de tort. Hein?
Allez sur cyberaide.ca. S'il y a une chose que vous avez retenue de la discussion aujourd'hui, là, c'est cyberaide.ca. Vous avez tout là-dedans. Et puis, si jamais vous avez des doutes sur votre enfant, n'hésitez pas. La clé là-dedans, c'est la communication. Et puis, je vous le dis, on a la centrale d'information criminelle qui peut être confidentielle, anonyme. Appelez à cet endroit-là. C'est le 1-800-659-4264 pour ceux qui demeurent sur les territoires de la SQ et la Ville de Québec, ils ont également leur programme qui est le 481-641-AGIR, soit le 481-641-2447. Gênez-vous pas, appelez-là, c'est confidentiel, anonyme. On va vous aider puis on va vous donner la suite.
Danny Morissette, merci.
Merci à vous deux.
Bye. Salut.
Bye-bye. Le garage à Dan Goron.